Vous êtes avec SBS French. Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le foot, la Ligue 1 en France avec le Paris Saint-Germain qui s'impose contre Montpellier 4-0. Rennes, à la surprise de tout le monde, a battu l'OM 2-0 et donc Monaco passe à la deuxième place en battant Brest 4-2. Bilan avec Thomas de Saint-Léger et Martin Guèze pour RFI.
Oui, à 21h25, ils n'étaient pas bien, mais alors pas bien du tout, les Monégasques menaient 2-0 par Brest avec un joli but en soliste de Youssef Belaïli, l'Algérien. Menaient donc ces Monégasques et surtout rétrogradés au classement provisoire, éjectés du podium. Cinquième à ce moment-là avec les autres résultats. Une heure et demie plus tard, changement d'ambiance, 4-2 au tableau d'affichage. Ben Yedder est passé par là. Triplé du buteur maison, ça fait 3 points, 3 places de gagné. Bref, tout bénef pour le milieu de terrain. Youssouf Fofana, il est au micro de nos confrères de Prime Vidéo.
Ouais, c'est important. On est dans un sprint final. On savait que Brest était une équipe qui avait plus rien à jouer et qui pouvait nous poser des problèmes. On a su répondre aux problèmes et avec ce magnifique public qui nous a poussé en deuxième mi-temps, c'était normal de fêter cette victoire avec eux. On va essayer de prendre la meilleure place. Si c'est la deuxième place, on prend.
Bah c'est pas mal la deuxième place, elle serait synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Ils y sont, les Monégasques, avec cette neuvième victoire consécutive. Ils y sont aussi, Thomas, parce que Marseille a perdu.
Défaite 2-0 des Olympiens à Rennes. Laborde, Bourigeaud plutôt. Laborde n'y marque plus, hein, de toute façon. Bourigeaud et Maillère sont les buteurs bretons.
Genre, vous aimez bien. Hein.
Oui, j'aime beaucoup, c'est vrai, Lobo Maillère. Marseille devancé par Monaco à la différence de but. Marseille, dont la troisième place, est même menacée par ses Rennais qui sont en embuscade. Trois longueurs tout de même derrière avant la dernière journée. C'est quand même une soirée difficile pour l'Olympien Valentin Rongier.
On n'a pas du tout fait le bon match, surtout qu'on n'est pas bien rentré dans cette rencontre. On savait qu'ils allaient venir nous mettre la pression. Voilà, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait et ce soir, ils ont été meilleurs que nous. On aurait pu. Après, c'est facile de le dire après le match. On aurait dû le faire sur le terrain. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc voilà, il nous reste un match. Ce sera un match décisif pour cet objectif qu'on a. Et on va tout faire pour remporter les 3 points la semaine prochaine.
Et la semaine prochaine, prochain match donc des Olympiens, le dernier de la saison en Ligue 1 pour Valentin Rongier et ses coéquipiers, ce sera contre Strasbourg. Les Rennais iront eux à Lille.
En Angleterre, la Cup, la finale hier, remportée par Liverpool contre Chelsea, 6-5 après prolongation au tir au but. On écoute la réaction de Jürgen Klopp, le sélectionneur de Liverpool.
Yeah, it means the world to us, honestly. It is like this. It's massive. It's difficult. It was difficult. The first 25 minutes were the best 25 minutes we played ever against Chelsea. We played an incredible game.
On passe à la Coupe d'Europe de rugby en demi-finale. Leinster s'est imposé contre Toulouse 40-17. Et dans le challenge européen, c'est Lyon qui s'est imposé contre Wasp 20-18. Toulon a battu Saracens 25-16. Cyclisme, le Giro d'Italia, 8e étape hier, 153 km autour de Naples, avec Thomas de Gent, le Belge, qui s'est imposé. Le Giro, c'est tous les soirs à la télévision SBS. On passe au tennis à Rome. La finale ce dimanche sera disputée entre le Serbe Novak Djokovic et le Grec Tsitsipas. En demi-finale, Djokovic a battu Ruud, le Norvégien, 6-4, 6-3. Et Tsitsipas s'est imposé contre l'Allemand Zverev, 4-6, 6-3, 6-3. Chez les dames, Świątek, la Polonaise, jouera contre Jabeur, la Tunisienne, en finale ce dimanche. Et en demi-finale, Świątek s'est imposé contre Sabalenka, la Biélorusse, 6-2, 6-1. Et Jabeur a battu Kasatkina, la Russe, 6-4, 1-6, 7-5. Et puis, Rafael Nadal, l'Espagnol, blessé à Rome cette semaine, à une semaine de Roland-Garros. Pierre Chaperon, RFI.
Qu'attendre de Rafael Nadal pour Roland Garros? C'est la question qui est sur toutes les lèvres de l'Espagne du tennis. Pour la première fois depuis 2015, le natif de Manacor va arriver à Paris sans un titre sur terre battue. Pire, sans même une référence. Seulement 5 matchs joués sur sa surface fétiche cette saison. La faute à une blessure au pied récurrente qui se réveille au gré du temps, des efforts, le syndrome de Müller-Weiss, une nécrose d'une partie de l'os, un mal impossible à opérer quand on veut rester sur le circuit professionnel. Après sa défaite en huitième de finale au Masters 1000 de Rome, Nadal affichait le visage des mauvais jours.
Non, je ne suis pas blessé. Je suis plutôt un joueur qui vit avec une blessure. Il n'y a rien de nouveau. C'est quelque chose qui est là. Mon quotidien est difficile, honnêtement. Il me faut accepter ce qui se passe et me battre.
Qu'il semble loin le temps où le Mallorquin réchauffait les cœurs d'une Espagne encore bloquée par les frimas de l'hiver. Janvier 2022 laissait augurer d'une saison 5 étoiles pour l'idole du pays. Un titre en Grand Chelem en Australie, le 21e de sa carrière, un record chez les hommes et un Nadal retrouvé sur le terrain. Oui, mais voilà, au fil de la saison, les nuages se sont accumulés. Une fissure aux côtes diagnostiquée après la finale perdue du Masters 1000 d'Indian Wells en mars, résultat une saison sur terre battue tronquée. Forfait à Monte Carlo et à Barcelone, deux de ses tournois préférés. Un retour à Madrid où il a été éliminé en quart de finale par la nouvelle coqueluche espagnole Carlos Alcaraz. Et puis Rome où le Canadien Denis Shapovalov l'a écarté en huitième. Une époque difficile à vivre pour ses supporters. Doit-on pour autant enterrer le roi de Roland-Garros? Ses 13 victoires portent d'Auteuil pour le journaliste de la Cadena Ser, Alvaro Benito. Malgré une saison compliquée, l'Espagnol peut monter en régime tout au long des deux semaines.
Qu'est-ce qu'on peut espérer? L'idéal pour Rafa est qu'il ait une première semaine calme. Nous savons que lors des grands chelems, à la différence des Masters 1000, pour les têtes de série, la première semaine peut être relativement tranquille. Mais j'insiste, Nadal n'a pas de souci avec son tennis. Il joue mieux au tennis, il connaît mieux son corps qu'il y a 5, 10, 15 ou 20 ans. Le fait est que si son pied le lui permet, il sera compétitif. Il y a beaucoup de gens qui le donnent pour mort. Moi, je ne vais pas faire ça. Il a ressuscité je ne sais combien de fois. Ce qu'a montré Nadal, c'est que s'il est modérément bien physiquement, il peut rivaliser.
Saison sur terre battue tronquée, blessure récurrente, avènement sur la scène mondiale de Carlos Alcaraz, tout porte à croire que Rafael Nadal vit le crépuscule de sa carrière. Gare tout de même à l'orgueil de l'Espagnol qui fera tout à Paris pour être à la hauteur de son palmarès.
Et puis c'est au Rwanda que le club parisien, le PSG, a ouvert une antenne de sa PSG Academy. Elle a été inaugurée en novembre de l'année dernière, une académie entièrement gratuite et quasi paritaire. Parmi les 184 élèves sélectionnés, 72 petites filles qui rêvent d'être footballeuses professionnelles. Reportage Laure Broulard pour RFI.
Michel Rouzibiza, 11 ans, arbore fièrement son maillot du PSG flambant neuf. Comme chaque jeudi, cette jeune Burundaise vient s'entraîner à l'académie, au stade de Houillé, après l'école.
Avant, je ne savais pas contrôler le ballon, faire des jonglés et pouvoir courir plus vite avec le ballon. J'ai pu apprendre ça et connaître le ballon mieux.
Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard?
Je veux devenir footballeur professionnel. Vraiment, je le souhaite.
Sur la pelouse synthétique, garçons et filles s'entraînent ensemble par groupe d'âge. Sous l'œil avisé de Grèce, Nina Wumuntu, la directrice technique de l'académie. Elle est également la première femme à être devenue entraîneuse professionnelle au Rwanda et la première femme arbitre du pays.
Je pense que cette académie va produire de bonnes joueuses pour le football rwandais parce que je crois que c'est la première académie ici qui commence à entraîner des filles dès 6, 7 ou 8 ans.
La directrice technique souhaite porter le nombre de filles dans l'académie à 100 contre 72 actuellement.
Nous avons du mal à trouver des filles. Certains parents considèrent encore que les filles ne devraient pas mettre un short et jouer au football.
L'équipe de l'Académie est également paritaire. Le PSG a sélectionné puis formé 4 entraîneurs, 2 hommes et 2 femmes. Séraphine Oumouniana entraîne les plus petits. Elle suit au jour le jour un programme défini par des entraîneurs du PSG.
On remarque déjà de gros progrès. Quand on a commencé, les enfants ne savaient pas comment se déplacer avec le ballon. Mais maintenant, ils ont appris et puis ils sont créatifs, ils sont plus rapides. Ils sont sur la bonne voie. Et une fois qu'ils auront atteint le niveau pour être des joueurs professionnels à l'international, là, on aura atteint notre but.
Mais l'objectif reste avant tout de dénicher de nouveaux talents pour la Fédération rwandaise de football, alors que les joueurs de l'équipe nationale, les Amavubi, peinent à se distinguer dans les compétitions africaines. Laure Broulard, de retour de Houillé, RFI.
Voilà pour le journal des sports de ce dimanche.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.